Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Jean-Christophe Ruffin arrive enfin en Galice. Il y retrouve les marcheurs rencontrés dans les Asturies. Le chemin traversait les hautes terres de Galice, rudes et désertes. Le jeune Belge nous raconta son voyage à travers son pays et la France, en ces lieux où les pèlerins sont rares. Il avait été accueilli partout, avec une ferveur inattendue en ce début du XXIe siècle. Les villageois lui faisaient cadeau de fruits ou d'œufs en lui demandant de prier pour eux à Compostelle. À l'heure de la télévision et d'Internet, le pèlerin continue d'incarner la circulation des idées et des êtres humains. À rebours du virtuel et de l'instantané que représentent les médias et qui suscitent la méfiance, voire l'incrédulité, le mouvement du pèlerin est incontestable. Il est attesté par la boue qui colle à ses souliers et par la sueur qui trempe sa chemise. On peut lui faire confiance. Quand il s'agit de livrer une partie de son âme, de se recommander aux puissances invisibles qui gouvernent le monde et notre propre destin, le pèlerin reste le seul à qui l'on puisse se fier. Le jeune garçon portait dans son sac quantité d'objets qui lui avaient été remis en échange de ses prières futures. Il ne semblait guère y croire et professait à l'endroit de la religion un scepticisme ironique. Pourtant, il ne se séparait pas de ses offrandes votives et se disposait à s'acquitter honnêtement de ses responsabilités de messager. À Saint-Jacques, il allumerait autant de cierges qu'on lui en avait demandé et placerait devant eux les images, les photos ou les petits mots qui permettraient au saint de connaître les intentions de ceux qui l'honoraient. Son sac à dos devait atteindre les 18 kilos, quoiqu'il ne contînt que fort peu d'effets personnels. Après 2 mois et demi d'errance, ce n'était pas un bissac qu'il avait sur les épaules, mais plutôt une hotte de Père Noël. Le long des chemins de Haute-Galice, les rares constructions sont en pierre sèche et couvertes de lauzes moussues. Les clôtures des champs elles-mêmes sont faites de larges pierres dressées et plantées dans le sol pour former de véritables murs. Archaïques et d'aspect brut, ces palissades minérales ramènent au temps reculé des premiers cultivateurs. Le marcheur a l'impression d'être remonté bien avant l'époque du Christ et des saints, avant même l'Antiquité, jusqu'à une période préhistorique. Quelques symboles chrétiens ont réussi à se frayer un chemin jusqu'à ces terres reculées, mais ils s'abritent sous les mêmes entassements minéraux. Nous croisâmes ainsi plusieurs ermitas. L'habituel décor marial, les fleurs en pot et les bougies qui projettent dans le sanctuaire une lumière sourde d'entrailles rouges y étaient protégées par la peau rugueuse d'un épais toit de pierre sèche. Dans les replis d'un col, nous rencontrâmes les vestiges d'une ancienne hostellerie de pèlerins. Les ruines ici n'étaient pas réduites à l'état de gravats comme dans la variante que m'avait indiqué l'épicière. C'étaient de hauts murs qui dessinaient encore nettement les diverses pièces de l'ancien bâtiment. Construits sans le recours du moindre mortier, les murs étaient des empilements de moellons basaltiques. Leur couleur fauve ajoutait au caractère austère du lieu que traversait un vent glacé. L'endroit était pourtant plein de gaieté. Un groupe d'Espagnols riait et se prenait en photo dans les ruines. Femmes et hommes étaient bronzés, vêtus de textiles fluo de couleur vive. Nous reprîmes la marche avec eux. Ils nous confièrent qu'ils vivaient aux Canaries, qu'ils étaient partis d'Oviedo et que ce froid vif était exactement ce qu'ils étaient venus chercher pour oublier l'émollient climat de leur île. Un peu plus loin, dans un creux de vallée au sortir d'un bois, un refuge nous engloutit tous. Nous y retrouvâmes d'autres pèlerins attablés, les joues rougies par le froid autour de chocolat chaud. Pour nous, qui venions de loin, ces étapes galiciennes marquaient déjà l'imminence de la fin du voyage. L'insouciance, la gaieté et la fraîcheur de ces marcheurs annonçaient ce que seraient les ultimes kilomètres avec leur foule bien reposée, venue seulement pour atteindre Compostelle depuis sa banlieue. Le pèlerinage avec eux allait prendre le caractère bref, juvénile et ludique qu'il revêt à Chartres, par exemple, qu'on atteint en peu de jours. Cependant, la rudesse de ces dernières hautes terres contrebalançait cette allégresse, en donnant au paysage un aspect austère et grave qui rappelait encore l'effort du pèlerinage au long cours. Peut-être parce que, au milieu de ces marcheurs de la dernière heure, nous étions porteurs, tous les trois, de la vénérable tradition du chemin, celle qui avait fait de nous ces fantômes béats, étrangers à eux-mêmes, délivrés de la rigoureuse frontière, qui, pour tous les autres, sépare la réalité du rêve, nous restâmes ensemble pour ces dernières étapes. Il y eut ainsi beaucoup de gaieté dans ces régions désolées. Nous marchions en plaisantant dans les ruelles de villages devenus trop grands et dont les sombres bâtisses de pierres grises et d'ardoises ne semblaient plus contenir que des vieillards. Quelques chiens, excités par notre présence, jappaient de toute leur force et leurs aboiements se répercutaient lugubrement sur les murs. Le dialecte galicien, proche du portugais, faisait son apparition sur les enseignes. Ces lieux abandonnés des dieux semblaient ne connaître que deux mouvements. L'exil des jeunes et le retour des vieux. Des cafés trop grands étaient tenus par d'anciens ouvriers de la Régie Renault qui évoquaient avec une nostalgie douloureuse les halles ou la porte de la chapelle. Des églises immenses perpétuaient le souvenir des temps lointains où la population était nombreuse et fervente. Ces bâtiments, aujourd'hui disproportionnés, provoquent chez les villageois un sentiment mêlé de fierté et de gêne. Fierté que soit ainsi rappelé le passé faste de la région, gêne comme devant un invité qui arrive avec un cadeau trop cher et humilie plus qu'il n'honore ceux à qui il est destiné. Moins indisposés que moi par les ronflements, mes compagnons pratiquèrent quelques auberges. J'eus de mauvaises expériences de camping dans ces régions glaciales et humides. Finalement, la dernière nuit, avant de nous séparer, nous nous logeâmes tous les trois dans un petit hôtel. À vrai dire, c'était seulement un bar, au-dessus duquel étaient aménagées quelques chambres. Elles étaient claires et modernes, ouvertes par de grandes baies vers un paysage d'une tristesse à faire pâlir tous les courages. Une route sur laquelle ne passait aucune voiture, un champ de pommiers dégoûtant de pluie, une remise en pierre dont la porte était obstruée par des ronces. Il y eut un peu de flottement au moment de nous répartir dans les chambres. Nous avions le choix de mettre les deux hommes ensemble ou de former un couple avec Marika. Mais dans ce cas, qui devait passer la nuit avec elle? Finalement, ce fut le critère d'âge qui, sans le formuler, prévalut. Les jeunes laissèrent leur aîné, moi, prendre ses aises dans une chambre seule. Le lendemain matin, mes compagnons voulaient partir très tôt. Tandis que j'avais tout mon temps, je devais rejoindre ma femme Azeb assez tard à l'étape suivante. Je décidai néanmoins de me lever en même temps qu'eux pour leur dire au revoir. Nous nous mîmes en quête d'un endroit où prendre un café. Les rues, à cette heure matinale, étaient encore plus désertes que dans la journée et tous les magasins étaient fermés. Finalement, ils se résolurent à partir le ventre vide. Nous échangeâmes nos adresses assis sur des marches de pierre près de l'hôtel. C'est à ce moment qu'un mystère nous fut révélé. Un taxi remontait lentement la rue principale du village. Il avait l'air très chargé. Parvenu à quelques dizaines de mètres de nous, il s'arrêta. Les portières ne s'ouvrirent pas tout de suite. La voiture se balançait sur ses ressorts. Le chauffeur se tournait vers l'arrière, sans doute pour encaisser la course. Soudain, une porte s'ouvrit et nous vîmes descendre, Ralph et Gunther. Nous tenions enfin le secret de leur perpétuelle avance.
C'était Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.